Gloire à Dieu. Voilà. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11 et au verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur, que Dieu bénisse pour nous sa parole. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il est dit qu'Abraham attendait la construction d'une cité fantastique, une cité glorieuse, une cité merveilleuse, qu'on appellera plus tard Sion. Or, ce nom de Sion signifie beaucoup de choses. Il signifie la montagne de Sion, il signifie Jérusalem, etc. Plus tard, c'est l'Église. Cette cité fantastique dont Dieu et l'architecte, il serait l'architecte et le constructeur. En tant qu'architecte, c'est lui qui en tire les plans, c'est lui qui en choisit la grandeur, la hauteur, la largeur, l'épaisseur, etc. Il en est l'architecte et il en est aussi le constructeur. Et Abraham ne savait pas ce dont il s'agissait, il partait sans savoir où aller. Mais il avait la foi, il comptait sur Dieu pour le conduire et il vient s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère et sans le savoir, il était là où Dieu voulait qu'il soit. Qu'il en soit ainsi pour nous. Que nous soyons là où Dieu veut, que nous soyons, que nous fassions ce que Dieu veut que nous fassions, bien sûr. Abraham ne savait pas ce dont il s'agissait. Il partait par la foi, il comptait sur Dieu, il pensait que Dieu est assez grand pour le conduire, pour l'inspirer, et c'est exactement ce qui s'est passé. Il ne savait pas. Mais nous, avec le temps, nous le savons, il s'agit bien sûr de l'Église. Il ne savait pas, l'Église n'existait pas à l'époque, mais nous le savons maintenant. Et pourquoi est-ce que nous le savons? Tout simplement parce que Jésus nous l'a dit. Jésus a dit, « Je bâtirai mon Église, et la porte du séjour des morts ne prévaudra point contre elle. Elle ne peut rien faire contre elle. Le diable ne peut rien faire contre l'Église. La puissance des ténèbres ne peut rien faire contre l'Église. C'est Jésus qui l'a bâti, c'est Jésus qui l'entretient, c'est Jésus qui en est l'architecte et le constructeur, que son nom soit béni. Alléluia. Amen. Nous travaillons avec le Seigneur, mais c'est le Seigneur qui dirige les choses. Et bientôt, cette église, que le Seigneur a commencé à construire il y a bientôt plus de 2000 ans, elle est bientôt prête. Quand nous considérons les événements qui nous entourent et dans lesquels nous vivons, nous pensons que il ne reste plus que quelques pierres vivantes à y ajouter pour l'enlever et pour permettre au Seigneur de s'établir. Le retour du Seigneur, l'enlèvement de l'Église, notre départ pour le ciel, ce doit être notre seul point de mire, notre préoccupation majeure, et la préoccupation majeure de tous les enfants de Dieu. Nous aspirons au retour du Seigneur. Nous désirons le retour du Seigneur. Nous voulons que le Seigneur revienne et qu'il vienne bientôt. L'Épouse et l'Esprit disent « Viens bientôt ». C'est écrit ainsi dans l'Apocalypse. Et ce doit être notre point de mire, notre préoccupation majeure de tous les enfants de Dieu. Et si ce n'était pas le cas, si ce n'était pas le cas, si les enfants de Dieu n'avaient pas pour point de mire l'enlèvement de l'Église, le retour du Seigneur, qu'attendrait-il alors? Qu'attendrait-il sur cette terre de misère, de péché, de guerre, de souffrance, de maladie? Qu'attendrions-nous alors? Si nous ne sommes pas dans l'attente du retour du Seigneur et de notre enlèvement pour aller avec lui dans le ciel, mais que ferions-nous ici-bas? Qu'attendrions-nous? Des choses meilleures, il n'y aura pas. Des jours meilleurs, il n'y aura pas. Au contraire, ça va de mal en pis et ça s'accentue. Ça va de mal en pis et ça s'accentue. Alors, il ne faut pas rêver non plus. Nous savons que le Seigneur vient bientôt. C'est notre préoccupation majeure, celle de tous les enfants de Dieu. Et voilà. Et pour attendre le Seigneur, pour permettre, excusez-moi ce verbe, au Seigneur de revenir, nous avons des choses à faire et des attitudes à avoir. L'apôtre Paul le dit aux Éphésiens, aux Philippiens. Il le dit aux Philippiens dans Philippiens 3, 13. Il leur dit ceci: frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais j'ai fait une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation de Dieu en Jésus-Christ. Oubliant ce qui est en arrière, et il y en a des choses en arrière, des bonnes et des mauvaises, mais on en a vu, j'allais dire de toutes les couleurs. Des choses en arrière, il y en a eu beaucoup. Elles ont pu marquer notre vie. Elles peuvent avoir marqué notre mémoire. Elles peuvent nous préoccuper encore, mais l'apôtre Paul dit, oublions ce qui est en arrière. Pourquoi? Parce que ces choses qui sont en arrière n'ont plus aucun pouvoir et n'ont plus aucun intérêt. Elles devraient en tout cas ne pas en avoir pour nous de l'intérêt, parce qu'elles sont passées. Vous savez, le pain rassis, c'est pas bon. Hein. Il est rassis, il est vert, hein. Il n'est pas qu'à être jeté dehors. Il n'est pas qu'à être jeté. Il faut les oublier. Les choses du passé, ne pas vivre avec. Faire de la place pour de nouvelles choses et vivre de nouvelles expériences avec le Seigneur. Parce que nous sommes d'accord, si vous ne l'étiez pas, ça ne fait rien, moi je suis d'accord. Les choses qui sont devant sont meilleures que celles qui sont derrière. Vous n'avez pas la foi, hein. Les choses qui sont devant sont meilleures que celles qui sont derrière. Même si celles qui sont derrière ont été bonnes et glorieuses, il y a mieux encore devant. C'est plus glorieux, c'est plus grand, c'est plus merveilleux encore. Le Seigneur a de grandes choses pour nous, bien sûr. Et l'apôtre Paul le dit, il dit ceci, et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Il dit, je me presse pour les choses à venir. Se presser, c'est faire vite, ou c'est se compresser. Paul dit, me portant dans le sens, me pressant vers les choses à venir, me portant. Et on découvre dans ses paroles l'image qu'il donne, à savoir quelqu'un qui veut courir pour faire un saut en longueur ou pour faire un saut en hauteur. Alors il prend ses dispositions, il se presse et il se porte en avant, dans le sens se presser vers les choses à venir. Il les attend. Mais il les attend presque avec impatience. Il les attend parce qu'il les veut, parce qu'il les aspire, il aspire à les rencontrer. Alors, il sait qu'elles existent, elles sont devant, mais il ne fait pas le mort. Il dit, je vais vers elles. Comme celui qui fait un saut en longueur ou un saut en hauteur, eh bien, il se compresse, il prend ses dispositions et il bondit. Il va de l'avant et il saute. Il se presse pour les choses à venir. Et nous l'avons dit, vu que les choses les meilleures, est-ce que vous le croyez que les choses les meilleures sont devant nous? Elles sont devant nous. Et on a intérêt, vu que les choses les meilleures sont devant nous, on a intérêt à les désirer avec ardeur, à les vouloir avec beaucoup d'intérêt, non seulement à soupirer après elles, mais de prier le Seigneur pour qu'elles se réalisent dans notre vie. Il se hâte, il se presse, il bondit, il les voit comme devant lui. L'apôtre Pierre en parle un petit peu quand il parle du retour du Seigneur, et il nous dit que nous sommes de ceux, bien sûr, dans 2 Pierre 3:12, puisque tout cela est en voie de dissolution, c'est-à-dire le monde qui nous entoure. Combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, selon la justice et où la justice habitera. Ce que dit Pierre, là, c'est quelque chose de terrible. Il dit que les cieux embrasés se fondront et la terre, avec tout ce qu'elle confronte, se dissoudra. Il ne restera rien. Quelquefois, je suis un petit peu souriant quand je vois des commentateurs faire l'éloge de certains bâtiments, de certaines statues, de certaines choses qui émerveillent peut-être les scientifiques, etc. Je dis, mais le Seigneur, quand on lui a dit, regarde, Seigneur, ces belles pierres, il leur a dit, il ne restera pas sur pied que tout cela ne s'effondre. Et Jérusalem a été détruite en l'an 70 de notre ère. Les gens s'ébahissaient devant la beauté de cet immeuble. Mais le Seigneur a dit, ça ne restera pas comme ça. Et nous ne sommes pas de ceux qui s'ébahissent, qui s'émerveillent devant ce que fait la science, de ce que font les hommes. C'est vrai que c'est beau, c'est vrai que c'est merveilleux, c'est vrai que c'est extraordinaire, mais la parole de Dieu nous dira que les cieux enflammés se dissoudront et la terre avec ce qu'elle renferme, s'anéantira. Il ne restera rien. Mais vous, qu'est-ce que vous faites? L'apôtre Pierre nous le dit ici, et attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront. Attendez et hâtez le jour du Seigneur. Attendez et hâtez le jour de Dieu, le jour de l'enlèvement de l'Église, le jour du retour du Seigneur. Attendez et hâtez. Il y a 2 formules. Il y a 2 invitations de la part du Seigneur pour ceux qui nous concernent. Attendre. Mais attendre, c'est une attitude passive. C'est une attitude passive. Et nous ne voulons pas avoir une attitude passive en nous croisant les bras, en disant, Seigneur, eh bien, je t'attends. Eh bien, je suis là, je suis bien, non. Attendez et hâtez. Autrement dit, le retour du Seigneur et l'enlèvement de l'Église dépend de notre attitude, de notre foi, de notre comportement, de notre façon de voir les choses. Le retour du Seigneur et l'enlèvement de l'Église n'est pas seulement du ressort de Dieu, mais c'est aussi de notre ressort. Attendez, c'est une chose, mais hâtez. Et hâtez, ça veut dire quoi? Eh bien, faites en sorte que cela se réalise. Que Jésus vienne. Que l'Église soit enlevée. Et vous savez que la parole de Dieu nous dit que l'Évangile sera annoncé jusqu'au dernier. Et quand le dernier aura été évangélisé, alors viendra la fin. Mais tant qu'il y aura quelqu'un qui n'a pas été évangélisé sur cette terre, tant qu'il n'aura pas entendu l'Évangile, Jésus ne viendra pas. Parce qu'il faut que toute créature ait entendu l'Évangile, ait eu sa chance de se convertir, ait eu sa chance de devenir enfant de Dieu. Et tant qu'il y a une seule âme qui n'a pas été touchée par l'Évangile, Jésus ne viendra pas. Il est donc de notre responsabilité de faire en sorte que l'Évangile soit annoncé à toute créature. Que Dieu nous soit en aide. Oui? C'est de notre responsabilité. C'est de notre ressort. C'est de notre responsabilité que d'annoncer l'Évangile à toute créature. À tous ceux qui nous entourent. À tous ceux de notre maison, de notre famille. À tous ceux de notre quartier, de notre village, de notre ville, de notre entourage, pour donner sa chance à toute créature. Amen. Par la grâce de Dieu, je ne tiens pas sur mes jambes. Et c'est la raison pour laquelle j'ai des soins. Alors je vais faire de la kinésithérapie, 4 fois par semaine. Et dans ces circonstances, eh bien, le Seigneur me donne l'occasion de parler de lui dans le cabinet du kinésithérapeute. Eh oui. Un jour, le kiné lui-même a dit, vous savez ce que fait M. Ouchami? Ah bon? Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il est pasteur. Ah bon? Eh oui. Et ça me donne l'occasion de parler du Seigneur à ceux qui sont là. Et puis, les gens qui viennent à la maison pour des soins ou pour préparer la cuisine, etc., eh bien, j'ai quelquefois l'occasion de leur parler du Seigneur. Il est de ma responsabilité, ce n'est pas seulement de mon devoir, non, mais de ma responsabilité. Parce que le Seigneur me les met sur mon chemin. Vous savez ce que je pense? Vous ne savez pas. Ben, je vais vous dire ce que je pense. J'ai eu le Guillain-Barré. Et parce que c'est Guillain-Barré, c'est pas grave. C'est une coupure de l'électricité dans le corps. Ça vient que j'avais plus de courant. Et n'ayant plus de courant, j'avais plus de muscles. Et n'ayant plus de muscles, bien, je suis devenu paralysé. Et pour l'instant, bien, ce sont mes jambes. Et vous savez ce que je pense, et je vais vous dire ce que je pense. Souvent, je dis merci Seigneur pour le Guillain-Barré. Bien souvent, les frères et sœurs de l'Assemblée m'ont dit, mais pourquoi, frère Bouchami, ça vous arrive? J'ai dit, j'en sais rien pourquoi ça m'arrive. Mais si le Seigneur l'a permis, et béni soit le Seigneur. Ça m'a donné X exemples, X moments de parler du Seigneur, de parler du Seigneur aux gens qui me soignent. Et oui, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu. Le retour du Seigneur, je l'ai dit, dépend donc de notre attitude. Merci frère. Des frères qui prennent soin de leur pasteur, c'est bien. Et notre désir de voir le jour se réaliser le plus vite possible, c'est de notre éternité qu'il s'agit. Donc oubliez ce qui est en arrière. Ne continuez pas à les ressasser ou à les regretter, comme Madame Lot. Vous connaissez Madame Lot? La femme de Lot, elle a regretté Sodome et Gomorre. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Eh bien, elle a été changée en statue de sucre. Non, de sel. De sel, parce qu'elle a eu des regrets. Elle a regretté cette ville de pourriture. Et nous n'avons pas à regretter quoi que ce soit. Nous remercions le Seigneur pour toutes choses. Et d'ailleurs, la parole de Dieu nous dit, rendez grâce à Dieu pour toutes choses. Oui, pour toutes choses. Et puis, oubliant les choses qui sont en arrière, regardez les choses qui sont en haut. Recherchez les choses d'en haut. C'est ce que Paul dit aux Colossiens. Cherchez les choses d'en haut. Il semblerait donc qu'il y ait des choses meilleures que d'autres. Les choses d'en haut sont, semble-t-il, apparemment meilleures que les choses d'en bas. Évidemment. Paul dit dans Colossiens 3, 2, il dit ceci, Colossiens 3, 2, on va lire 3, 1, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu, attachez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur terre, car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Cherchez les choses d'en haut. Affectionnez-vous, attachez-vous aux choses d'en haut. Elles sont meilleures, plus grandes, plus belles, plus harmonieuses que les choses d'en bas, bien sûr. Et Paul dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut, affectionnez-vous. L'affection, c'est pas rien. L'affection, c'est un amour. C'est un amour, c'est un attachement. C'est un attachement qui occupe les pensées de l'individu et même qui le préoccupe. Avoir de l'affection, c'est être préoccupé. Les choses en haut devraient donc nous préoccuper jusqu'à devenir notre principal intérêt, notre vie. Attachez-vous, recherchez les choses d'en haut. Oui. Et puis, l'auteur de l'Épître aux Hébreux va nous mettre en quelque sorte au pied du mur. Il va en quelque sorte nous lancer un défi. Nous mettre au pied du mur, nous lancer un défi en nous proposant un dilemme. Un dilemme, une chose difficile, voire impossible. C'est dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 12 et verset 1er. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Il y a deux choses intéressantes. Il nous dit, ayez les regards sur Jésus. Ou autrement dit, regardez Jésus. Comment peut-on voir Jésus quand il est invisible? Comment peut-on avoir les regards fixés sur les choses que l'on ne voit pas? C'est un défi. On est au pied du mur. En réalité, il faut avoir une juste vision des choses invisibles. Il faut avoir dans son cœur une juste vision de ces choses-là, une juste vision de la personne de Jésus, car sans cela, il est impossible d'avoir la foi. Autrement, ce serait une aberration que de prétendre voir des choses invisibles. C'est impossible. Les choses invisibles, par définition, on ne les voit pas. Mais avoir les regards sur Jésus, c'est avoir une juste vision de sa personne. Avoir les regards sur Jésus, c'est avoir une juste vision de ce qu'il a été, de ce qu'il a fait, et de ce qu'il est maintenant, une juste vision de sa personne, de sa justice, de sa sainteté, de son exemple, enfin de toute sa vie sur la terre. Comment il vivait, c'est ce qui m'a à me convertir. En regardant Jésus vivre dans les évangiles, c'est ce qui m'a converti. C'est la personne de Jésus, c'est sa vie, son attitude, ses paroles, en face de ses adversaires, son attitude, en face de ses adversaires qui ne voulaient que sa mort, eh bien c'est son attitude qui a changé ma vie. Et je me disais, c'est pas possible. C'est pas possible qu'il ait une telle attitude. Qui est-il? Ce n'est pas qu'un homme. Il n'est pas simplement homme. Il est plus qu'un homme, il est plus qu'un prophète. Il est tout à fait autre chose. Et ça a bouleversé ma vie. Avoir les regards sur Jésus, avoir une juste vision de sa personne, de ce qu'il a été, de ce qu'il a fait sur la terre. Et mes frères et sœurs, c'est dans la mesure où on a une juste vision de sa personne, de la personne de Jésus, mais aussi, et là je parle à ceux qui n'ont pas encore donné leur cœur au Seigneur, c'est dans la mesure où l'on a une juste vision du ciel et de l'enfer, qu'on prend une décision radicale et définitive. Et je suis sûr, frères et sœurs et chers amis, que si le Seigneur entrebâillait la porte de l'enfer, on ne resterait pas sans se convertir. Si le Seigneur entrebâillait la porte du ciel, on ne restera pas comme cela. On changerait de vie tout de suite et une décision définitive serait prise parce qu'on se rend compte tout de suite de ce qu'il en est. Mais ce n'est pas moi. C'est le Seigneur qui décide d'entrebâiller ou pas telle ou telle porte. Et dans l'Épître aux Hébreux, nous l'avons lu, il est écrit aussi, « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. » Ayant les regards sur Jésus, avoir une juste vision de la personne de Jésus, avoir une juste vision du ciel, si c'est possible, si la Bible le dit, si c'est vrai, eh bien la Bible nous dit, rejetons tout fardeau et rejetons le péché qui nous enveloppe si facilement. Rejeter. Rejeter. Il est évident que les fardeaux et le péché, entretenus volontairement, ne peuvent qu'handicaper notre marche. Est-ce qu'on peut toujours marcher avec un sac de farine de 100 kilos sur le dos? C'est pas possible. C'est un fardeau, on peut le porter peut-être quelques mètres, mais au bout d'un certain temps, il va nous écraser. C'est un fardeau trop lourd. Et on ne peut pas le supporter longtemps. Il est même dans notre vie, sur le plan moral et sur le plan spirituel. Si on a un fardeau qui est vraiment trop lourd et qu'on n'arrive pas, eh bien il va nous écraser, il va nous décourager, on va faire de la dépression. Parce que le fardeau est trop lourd. Alors il faut le rejeter. Et le péché qui nous enveloppe si facilement, il ne faut pas l'accepter facilement. Il faut le rejeter comme les ordures. Parce que les fardeaux et le péché, ce sont des ordures qui nous empêchent. Les ordures, on ne les garde pas à la maison. On les vire. Et tous les jours, on va à la poubelle, jeter les ordures. Eh bien, ces choses-là, il faut aussi les rejeter. Rejeter, c'est mettre derrière soi pour ne plus y penser. Comme les ordures, on n'y pense plus. Et puis, dans le livre d'Ésaïe, nous sommes encouragés par cette parole de l'apôtre, du prophète, pardon. Ésaïe, chapitre 35, verset 10. On va lire un peu plus haut pour être plus explicite. Verset 8, 35-8, « Maintenant, fais une convention avec mon maître, le roi d'Assyrie, et je te donnerai 2000 chevaux, et si tu peux fournir des cavaliers pour les monter. » Comment Au verset 9, sur cette route au point de Lyon, nulle bête féroce ne la prendra, nul ne s'y rencontrera, les délivrés y marcheront, les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront, que Dieu soit béni. Voilà ce que promet la parole de Dieu, la douleur et les gémissements n'auront plus de place dans notre vie. C'est le triomphe et c'est la joie. C'est ce que Dieu réserve à ceux qui, comme Abraham, s'intéressent et s'attachent à la cité de Dieu, à l'Église, à l'œuvre de Dieu. Le triomphe, évidemment, suppose qu'il y ait un combat, mais l'issue dans ce combat, c'est la victoire qui a été assurée à la croix par le Seigneur, que son nom soit béni et que le Seigneur bénisse sa parole. Il nous appartient tout simplement de croire et de continuer à marcher avec le Seigneur, avec joie et avec confiance, que son nom soit béni. Amen. Nous voulons bénir et louer ton saint nom, Seigneur, pour ta bonne et précieuse parole pour nos cœurs. Merci de nous avoir attirés à toi. Nous étions comme les autres, morts dans nos péchés, bien loin de toi. Mais dans ta grâce infinie, Seigneur, tu as trouvé le chemin de notre cœur et tu nous as touchés à salut. Seigneur, tu as transformé notre vie. Tu as fait de nous de tes enfants. Sois béni, Seigneur. Ah, je me souviens, Seigneur, de l'œuvre de Dieu dans ma vie et je te rends grâce. Merci, Seigneur, pour toutes les expériences que nous avons faites depuis le jour où nous t'avons rencontré. Merci, Seigneur, parce qu'avec foi, nous pouvons dire que ce qui est devant nous est encore meilleur que ce qui est derrière nous. Les choses les plus belles sont encore devant et nous avons cette joie et cette foi de savoir, eh bien, que ce sera de mieux en mieux. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen. Amen.
Amen. Merci.